je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs et nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits. Avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.
Le 29 mars 2025 se tenaient à Paris comme partout en France des manifestations pour réclamer des logements décents, dignes et abordables pour tous et toutes, mais aussi l'arrêt des expulsions et l'arrêt des destructions de HLM. Les prises de parole que vous allez entendre dressent un tableau catastrophique de la situation du logement en France sans qu'aucun projet gouvernemental à la hauteur ne vienne pallier à cette sombre réalité.
En 2023, on a eu 19 000 expulsions forcées. En 2024, on en a eu 24 000. En 1983, on en a eu 3 200. Chaque année, on en a un peu plus et ça augmente un peu plus vite chaque année parce que les loyers n'ont jamais été aussi chers, parce que les APL n'ont jamais été aussi faibles, parce que la spéculation immobilière et la spéculation foncière sont la priorité des politiques publiques aujourd'hui, à la fois au niveau national, mais également au niveau local. Gentrification, épuration sociale, démolition des logements sociaux, projet d'urbanisme qui vise à dégager les classes populaires et à la remplacer par des gens qui ont plus d'argent. Aide à loger les riches, la dernière mesure pour le logement mise en place par le gouvernement Bayrou. C'est un cadeau fiscal qui peut se monter jusqu'à 54 000 euros. 54 000 euros pour l'oncle, le grand-père ou la grand-mère, le père ou la mère, qui offre 300 000 euros à son rejeton, à son neveu ou à son petit-fils ou sa petite-fille. Un cadeau fiscal de 54 000 euros. Avec 54 000 euros, on peut construire 5 logements très sociaux, 10 logements sociaux normaux. Voilà, et on peut réquisitionner des centaines de logements. Voilà la réalité, c'est-à-dire le gouvernement et les pouvoirs politiques, locaux, soutiennent le logement cher. Ça suffit. On veut maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Un moratoire des expulsions. Moratoire des expulsions. 2, baisse des loyers. 3, on veut la réquisition des logements vacants pour loger les sans-abri 350 000 sans-abri, 3,1 millions de logements vides. On veut la baisse des loyers et des charges. On veut la réalisation massive de logements sociaux. On veut que cesse la spéculation, que soit jugulée la spéculation immobilière et foncière.
Ce loger n'est pas un crime, c'est une nécessité. Ce loger n'est pas un crime, c'est une nécessité. Matraquer, expulser, chasser.
Alors, ouais, déjà, bon, alors, je donne, hein, alors c'est de l'argent pour le logement, pas pour l'armement. Voilà, tu tiens cette banderole.
À l'heure où on entend quand même beaucoup de bruits de bottes, de menaces de guerre et beaucoup d'argent qui est débloqué pour l'armement, pour la construction d'une Europe militaire qui serait capable de faire face à un Poutine qui nous menacerait. Bon, je pense qu'il y a des questions quand même fondamentales dans notre société aujourd'hui, celle du logement, celle de la santé, celle de l'école, qui sont loin d'être résolues et qui, au contraire, s'aggravent de jour en jour. Je fais partie d'une organisation qui s'appelle Femmes Égalité, et donc on est sur la défense des revendications, des aspirations des femmes des milieux populaires, donc dans les quartiers, mais aussi au travail, pour celles qui travaillent dans les métiers féminisés, les plus mal payés, les plus mal considérés, et avec des pénibilités qui ne sont pas reconnues. Donc voilà. La réalité, c'est qu'il y a énormément, de plus en plus de femmes qui sont en situation de famille monoparentale, qui ont des enfants à charge, dont le papa souvent ne paye pas la pension alimentaire ou n'est pas à même de la payer, et qui sont actuellement en logement social et sont menacées d'expulsion parce qu'elles ne s'en sortent plus du tout. Voilà, même un loyer en logement social avec des charges qui explosent et des loyers qui continuent d'augmenter d'année en année. Et on a de plus en plus de femmes à la rue aujourd'hui, y compris avec des enfants. Il y a une urgence sociale énorme qui n'est pas du tout entendue ni prise en compte. Là, je discutais avec quelqu'un dans la manif qui me disait « mais le gouvernement s'en fout du logement ». Je dis « oui, mais justement, c'est à nous d'en parler parce que si nous, on n'en parle pas, personne n'en parlera ».
Prise de parole de la CNL.
Par cette belle après-midi ensoleillée, eh bien on est encore une fois, pour la énième fois, dans la rue pour réclamer l'arrêt des expulsions locatives. Il faut savoir que actuellement, dans notre pays, nous subissons une crise du logement sans précédent. On a la crise du post-Covid qui influe dans les ménages. On a l'inflation qui a augmenté, les dépenses d'énergie qui ont augmenté, l'inflation, la guerre en Ukraine qui a raréfié les produits et fait augmenter les prix. Tout ça, aujourd'hui, les familles n'en peuvent plus de payer le loyer et ne peuvent plus remplir le frigo non plus. Et donc, il est clair que quand un locataire ne paie pas son loyer, c'est pas parce qu'il ne veut pas le payer, c'est parce qu'il ne peut pas le payer. Il faut qu'on soit solidaires aujourd'hui. Parce que les logés d'aujourd'hui seront peut-être les expulsés de demain. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. L'État doit construire massivement des HLM dans notre pays. L'État doit stopper les démolitions. Actuellement, on est dans un pays où on va démolir du logement social alors qu'on n'en a pas assez. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Et d'autre part, on souhaite, nous, à la CNL, qu'on mette en place une sécurité sociale du logement. Sécurité sociale du logement, c'est une caisse de solidarité, c'est une protection des locataires qui ont, quand ils auront un accident de la vie, eh bien, on puisse les maintenir dans le logement. Parce que l'expulsion, c'est du dogmatisme, c'est du Moyen-Âge. Ça sert à rien, l'expulsion. Ça coûte cher à la société. Nous, on propose que au lieu de payer de l'argent dans des hôtels miteux quand il y a de la place, eh bien, on puisse enfin donner tout cet argent dans une caisse de solidarité avec une véritable sécurité sociale du logement. En 1945, alors que le pays était en ruine, on a su mettre en place la sécurité sociale. Eh bien, en 2025, 80 ans plus tard, on va mettre en place la sécurité sociale du logement.
Bon, donc on va continuer des prises de parole. Là. Donc je vois qu'il y a les architectes de construire là qui sont là. Hein, Bernard ?
Un petit mot rapide des architectes urbanistes de construire, puisque tout ce qui a été dit par la CNL, nous le partageons. Mais je pense que il faut rajouter quelque chose. Aujourd'hui, si on ne construit pas, s'il n'y a pas de budget pour construire, c'est parce que Macron et son gouvernement nous disent « l'argent doit aller à la guerre, il faut une économie de guerre, il faut construire des tanks, il faut fabriquer des bombes, nous n'en voulons pas, nous ne voulons pas d'économie de guerre, nous voulons un budget pour satisfaire les besoins de la population, des écoles, des hôpitaux, des logements, construisons massivement. » Et il faut arrêter, alors qu'il y a des millions de sans-abri, alors qu'il y a des expulsions qu'il n'y en a jamais eu jusqu'à présent, il faut arrêter de démolir. Stop aux démolitions, oui aux constructions, stop à la guerre, stop au budget d'armement, pour un budget massif pour les services sociaux, pour un budget massif pour le logement.
Et stop aux démolitions de HLM.
Tu viens, c'est pour une radio libre, Fréquence Paris Pluriel. Voilà, donc on est à la manifestation organisée entre autres par le DAL sur les questions de logement. Il y a tout un tas d'architectes qui se battent aujourd'hui pour la construction des logements sociaux. Il y a eu seulement en 2024 59 014 logements créés en France, moitié moins qu'en 2023. Tu fais partie de ces architectes aujourd'hui qui se battent pour la construction des logements sociaux.
Bah moi, je viens des quartiers populaires, je viens du 93, et depuis que je suis architecte, que j'ai découvert qu'on s'était mis à démolir ces biens absolument inestimables et absolument inestimables aujourd'hui et précieux, j'ai essayé d'agir contre. Et j'étais très content l'année dernière quand le collectif Stop Démolition s'est constitué sur la base de l'ensemble des collectifs locaux et de tous les acteurs de la ville qui étaient contre cette démolition un peu systématisée des quartiers.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment des professionnels de l'urbanisme rejoignent des comités locaux pour essayer de créer une force contre la destruction de ce bien populaire qui nous appartient.
Quand on creuse un peu la question, on se rend compte assez vite que, en fait, démolir aujourd'hui, c'est contre-historique par rapport à toutes les crises qu'on a gérées. Que ce soit celle du logement, bien entendu, que ce soit celle financière et que ce soit celle environnementale. À savoir qu'entre un immeuble qui serait rénové avec des conditions de confort actuelles et contemporaines, il faut compter par rapport à une démolition reconstruction, ça coûte 2,5 fois plus cher. Et donc ça veut dire qu'on a tout intérêt à mettre à profit les bâtiments existants plutôt que de les raser. Et en matière d'émissions, simplement sur les émissions de gaz à effet de serre, on est jusqu'à 20 fois plus de gaz à effet de serre émis dans une opération de démolition-reconstruction plutôt qu'une une rénovation sérieuse d'immeubles. Et ensuite, il faut rappeler aussi que d'un point de vue social, c'est la destruction de tissu social qui s'organise. Je prends l'exemple d'Orly, c'est jusqu'à 674 logements démolis d'un seul coup. Et donc, tous ces biens-là, aujourd'hui, nous, on considère qu'ils ne sont même pas plus précieux. Ils sont devenus des objets inestimables au regard des enjeux du futur, de ne pas émettre plus de gaz à effet de serre et de valoriser les actions d'un point de vue financier de façon opportune. En plus de ça, on sait que le patrimoine qui a été construit pour mettre dans des logements décents les gens qui habitaient des habitats de fortune, eh ben, ce bien, en plus, qui a été payé par les travailleurs, puisque c'est le 1% patronal qui a payé l'ensemble de cette œuvre nationale de rétablissement d'un droit fondamental au logement, en fait, c'est complètement contre-historique d'aller démolir. Et on se rend compte aussi que ces immeubles-là, ils ont des caractéristiques qu'on ne sait pas reproduire aujourd'hui. C'est complètement délirant de s'imaginer qu'on va déplacer autant de matières et de matériaux alors qu'on n'en a plus les moyens et qu'on sait très bien que notre planète, elle est finie. Donc, ce n'est pas qu'une question de qualité de matériaux. C'est aussi une question de responsabilité par rapport à l'avenir. On nous fait croire qu'il y a du recyclage, mais la part du recyclage est extrêmement faible. dans toutes les hypothèses, n'importe qui, avec un bien de cette importance qui a nécessité autant d'investissement, autant de force, autant d'énergie à son établissement, c'est en dernier recours qu'on envisage sa démolition. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, on soit dans des dispositions inverses de pensée de la ville, où on fait à nouveau table rase, comme si on avait des ressources en veux-tu, en voilà, de façon infinie, et qu'on avait une énergie infinie.
Pourquoi ? Hein ?
Alors pourquoi ? Je pense qu'il y a des forces à l'œuvre. Le règlement de l'ANRU, et il rédige, noir sur blanc, démolissez des immeubles pour créer du foncier, pour faire des immeubles neufs. Et c'est dans les ordres qu'il donne de manière indiscriminée sur tout le territoire national. Comme ça passe par aucune assemblée représentative, c'est le résultat de lobbying auprès du gouvernement qui écrit ces règlements. Fondamentalement, il y a la peur des quartiers depuis que les quartiers se soulèvent. Il y a d'une certaine manière une volonté de casser ce tissu social pour empêcher que ça soulève. Donc je pense qu'il y a quand même à l'œuvre là-dedans une lutte de classe.
Mais dans la lutte de classe, il y a aussi les intérêts des propriétaires et des bétonneurs.
Ceux qui ont les outils de production, ce sont eux qui dominent. Donc ils dominent d'une certaine manière. Et là, en l'occurrence, en rasant les quartiers.
Je voyais, il y a eu très peu de construction de nouveaux logements sociaux cette année. Et j'imagine que les projets pour l'année prochaine ne sont pas plus glorieux.
Il y a 2 700 000 demandeurs de logement social. Et dans ces 2 700 000, il y en a 1,8 million qui sont des primo-demandeurs, qui attendent un logement. Les autres, ils souhaiteraient changer de logement. Il faut savoir que depuis 40 ans, il y a de plus en plus de gens qui sont susceptibles de pouvoir accéder au logement social. On voit clairement une dégradation de la situation du logement en France. C'est quand même un des principaux postes de dépenses pour tout le monde. Et du coup, on voit apparaître des phénomènes de gens qui profitent de la situation pour faire du mal logement de façon éhontée. Et puis, on voit apparaître de plus en plus dans nos espaces de ville des habitats de fortune depuis 5 ou 10 ans, très très clairement.
Et alors les projets ? Les projets de l'État, puisque c'est quand même de sa responsabilité quand même.
Il y a eu un espèce d'appel, là, il n'y a pas si longtemps, de Macron pour 10 projets sur 10 quartiers. C'est la montagne qui accouche du sourire, ou c'est juste pour faire valoir qu'ils font quelque chose. Mais en fait, il y a des problèmes structurels, notamment l'entretien des quartiers. J'aime à dire qu'on a tous dans nos baux, quand on loue un bien, d'avoir la jouissance tranquille du bien loué. Et bien la plupart des quartiers, le manque d'entretien, les difficultés d'entretien, de maintenance et ainsi de suite, la dégradation des espaces, c'est une dégradation de la jouissance paisible du bien loué. Alors que tout le monde paye son loyer, comment se fait-il que ces quartiers-là se dégradent alors que d'autres quartiers s'entretiennent ?
Surtout que dans notre loyer, il y a la petite casse-charge.
Voilà.
Voilà. Normalement, c'est prévu dans le.
Oui, mais puis certains locataires ont payé plusieurs fois le prix de leur logement. Pour les vieux locataires qui sont restés durant des années, ils ont payé plusieurs fois leur logement. Voilà.
Comme le fait qu'il y a prévu aussi l'entretien et même les gros travaux qui doivent se faire théoriquement à peu près tous les 20 ans et qu'on ne voit pas venir.
Voilà.
Mais je te remercie beaucoup que tu te présentes.
Ah bah moi je m'appelle Francis Landron, voilà, architecte, voilà.
Merci.
Dans
beaucoup.
Le Val-de-Marne.
Vous êtes à l'écoute de l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel et vous entendez les prises de parole que nous avons pu réaliser lors de la manifestation du 29 mars 2025 pour demander un logement décent, stable, abordable pour tous et toutes.
Donc là, on donne la parole à Solidaires étudiants.
Bonjour à toutes et à tous. Je prends aujourd'hui la parole au nom du syndicat Solidaires étudiantes, Fédération de l'Union syndicale solidaire. On voudrait parler aujourd'hui de la situation spécifique des étudiants et des étudiantes face au logement. La précarité étudiante, banalisée depuis des années, commence lorsque nous devons quitter le foyer familial et subvenir à nos besoins par nous-mêmes, tout en réussissant nos études. En moyenne à Paris, c'est près de 850 euros qui partent dans le loyer des étudiantes et des étudiants. Pourtant, comme vous le savez, les étudiantes n'ont pas de revenus propres, pas de salaire en retour de leurs études. Nous sommes soit dépendantes de nos parents, soit du CROUS, soit d'un emploi que nous devons supporter en parallèle de nos études, au risque de ne pas valider notre année. pour celles et ceux d'entre nous qui bénéficient d'un logement en résidence universitaire et qui s'en tirent avec des loyers réduits, c'est-à-dire seulement 11% des étudiantes et des étudiants, ce n'est pas la panacée. Ce sont les premiers à rencontrer des problèmes de logement, cloîtrés dans des logements trop étroits, laissés insalubres par le Crous, malgré les avertissements répétés des résidentes et des résidents. C'est une situation qui a été une fois de plus mise en lumière lors des JO 2024. Dans beaucoup de résidences, les cafards, les coupures ou les fuites d'eau, la moisissure et l'absence de chauffage en plein hiver sont le quotidien des étudiantes et des étudiants. La violence exercée par le Crous se retrouve aussi dans ses méthodes d'expulsion. En effet, les étudiantes qui ne parviennent plus à payer leur loyer ou qui ont perdu leur statut étudiant ou n'ont pas renouvelé à temps leur contrat de résidence peuvent être expulsées de leur chambre universitaire dans des délais très courts, y compris durant la période hivernale, contrairement au droit commun des expulsions locatives. Les étudiantes et les étudiants disposent souvent de moins de 15 jours pour partir et leurs effets personnels ne sont pas systématiquement conservés dans la plupart des cas. Les résidentes menacées d'expulsion quittent leur chambre sous la pression bien avant le passage au tribunal et réalisent par conséquent très peu de recours contre les décisions du Crous. Le constat n'est pas meilleur du côté du parc privé, où les étudiantes et les étudiants sont un public cible pour des propriétaires qui louent des chambres de bonne à 700 euros par mois, qui ne respectent même pas les 9 mètres carrés où l'on peut se tenir debout, pourtant le minimum de la loi Carès. Pire encore, on voit de plus en plus surgir des annonces de logements moyennant une partie du loyer contre un travail en nature, allant du travail domestique à la prostitution. Au total, c'est plus de 1,5 million d'étudiantes et étudiants qui sont mal logés, et en premier lieu les femmes, les étudiants étrangers et les boursiers. Au cours de l'année passée, un étudiant sur 10 déclare avoir été contraint de dormir dehors ou dans sa voiture, ne parvenant pas à trouver de logement. Malgré la précarité étudiante aussi croissante que les prix du loyer, le gouvernement Bayrou a voté une coupe budgétaire de 930 millions d'euros dans l'enseignement supérieur et la recherche. Cette coupe va se répercuter directement sur les conditions de vie et d'études des étudiantes et des étudiants. Cette politique de rigueur s'inscrit en réalité directement dans une entreprise de privatisation de l'enseignement supérieur mise en œuvre depuis 20 ans maintenant et dont les conséquences s'observent déjà dans toutes les facs et dans tous les Crous. Outre la hausse de 3,26% des loyers qui a déjà été annoncée, pour combler ce manque de budget, les Crous commencent à commercialiser nos logements lors d'événements touristiques, comme ce fut le cas lors des JO 2024 à Paris, mais aussi à Strasbourg lors du marché de Noël et à Rouen lors du défilé de l'Armada. En Ile-de-France, 3000 étudiantes et étudiants ont vu ainsi leur logement réquisitionné pour loger à prix d'or les CRS mobilisés le temps des Jeux Olympiques, permettant aux Crous de Paris de gagner un bénéfice de 500 000 euros. Comme le reste du service public, le Crous poursuit donc désormais des objectifs de rentabilité. On voit difficilement comment l'objectif de 35 000 nouveaux logements pour 2027 pourrait être atteint dans ces conditions. Pourtant, la France ne manque pas de logements. En 2023, on compte 3,1 millions de logements vacants sur le territoire français. 3,1 millions de logements, c'est suffisant pour loger toutes et tous les étudiants et tous les sans domicile fixe du pays. Et c'est sans compter tous les logements en location à des fins purement touristiques. Nous savons que le logement est marqué par une profonde concentration de la propriété privée. 3,5% des ménages possèdent 50% du parc locatif. Pendant que des étudiantes et des étudiants sautent des repas et que des travailleuses se tuent à la tâche pour payer leur loyer, des propriétaires se goinfrent de leur rente. C'est pourquoi Solidaires étudiantes revendique la réquisition des logements et leur transformation en logement social pour que toutes et tous puissent bénéficier d'un logement décent et stable. Contre la commercialisation des Crous, nous revendiquons l'interdiction de l'utilisation à des fins commerciales et touristiques de nos logements, ainsi que leur réhabilitation partout où cela est nécessaire, l'alignement de nos droits sur le droit commun des locataires, le gel des loyers et l'extension du parc pour loger tous les étudiants et toutes les étudiants.
Merci Solidaires étudiants. Et la lutte continue, on vous soutient dans votre combat. S'il y a des expulsions aux Crous, vous nous appelez, on sera là. Voilà. Et, si, et les étudiants qui se font escroquer aussi fraude par leurs bailleurs privés, parce qu'il y a beaucoup de fraude dans les rapports locatifs. Et donc, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de nous. On vous expliquera quels sont les droits des locataires. Parce que là, ils en profitent à mort sur le fait que personne, les locataires, ne connaissent pas leurs droits et qu'il n'y a pas de service public pour les protéger.
We'll be right back. Et qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Pour qui?
Qui défend les tourailleaux. Alors les tourailleaux, c'est ces tours en forme de nuage qu'il y a à Nanterre. Et il y a un collectif de locataires qui est très très mobilisé. C'est quoi ce projet? On va parler au passé? Bon, malheureusement.
On s'est beaucoup mobilisé au départ parce qu'on voulait être partie prenante dans les décisions, puisqu'on a pris le train en marche, vu que le maire avait déjà commencé les démarches avec l'ANRU. Les tours qui dépendent de l'office municipal et de celle qui dépendait de l'office départemental. Suite à un tract du maire qui, sans nous nommer, nous a complètement discrédités, le mouvement s'est étiolé. Ça a été une manipulation pas très honnête. La municipalité n'a jamais voulu parler de délogement. Elle n'a ni de vente de tours, alors que c'était la réalité. Donc ils se sont toujours défendus de vendre du logement social, alors que c'était les termes du contrat. Il y a eu des réunions de concertation, mais qui sont des fausses réunions de concertation. C'est-à-dire que celles qui étaient vraiment importantes, bizarrement, il n'y a pas eu de publicité dans les boîtes aux lettres pour que les gens viennent. Donc on s'est retrouvé à des réunions où on était les militants de base du collectif. Il y avait en tout 25 personnes, dont les membres de l'ANRU et les membres de la mairie. Et en général, quand il y a des réunions de concertation, ils ont déjà proposé des choses et ils vous demandent juste de discuter, de réfléchir sur ce qu'ils ont déjà pensé. La société privée qui a été mandatée par l'office et la mairie pour trouver des logements aux gens qui sont délogés est mise en place. Donc il y a déjà des tours qui sont en train de se vider. Ceci dit, ce projet, il est prévu depuis 2018. Mais là, ça met beaucoup de temps. Et dans ce projet, il y a non seulement le délogement et relogement de tous les locataires de certaines tours, mais il y a aussi la rénovation thermique. Et c'est un plan qui ne fonctionne pas du tout. Ils sont confrontés à des défis techniques qui sont pas, apparemment, qui ne sont pas résolus. C'est à moitié en travaux. Et en plus, la rénovation thermique, elle est financée par l'ANRU pour une seule tour. La tour pilote, qui est la tour 15. Pour les autres, on ne sait pas comment ça va être financé. Il y a 6 tours municipales, il y en a une qui a été vendue à Cogedim Altaria. Et au niveau départemental, ils ont 12 tours et il y en a 5 qui sont vendues et une détruite.
Comme il y a très peu de reconstruction de nouveaux logements sociaux, les gens qui sont virés des logements qui sont détruits, revendus, etc., sont prioritaires, ce qui engorge encore plus les demandeurs de logements sociaux.
D'autant plus qu'il y a très peu de rotation maintenant. Et en plus, dans les nouvelles constructions, il n'y a plus de grands logements. Donc les familles nombreuses, là, qui doivent déloger, qui ont des F5, ils vont avoir beaucoup de mal à leur proposer des logements identiques. Et les nouveaux logements qu'ils font, même si c'est du logement HLM, c'est pas le même standing. Il y a très peu de loyers très bas. Donc les gens, il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de se reloger dans des logements avec un standing supérieur.
Derrière le mot logements sociaux, il y a des réalités qui sont totalement différentes.
Tout à fait.
Et on peut se laisser piéger. Il y a les PLAI qui sont vraiment les loyers les moins chers, mais qui correspondent aujourd'hui à un SMIC.
Il y a énormément de gens qui ont besoin de ce type de logement. Et dans les logements sociaux qu'ils construisent, il n'y a pas ces logements-là.
C'est PLS, c'est autre chose. Voilà. Et on est presque au niveau du privé, quoi. niveau. Donc là aussi, on nous endort un peu ces questions-là.
Mais dans le projet des tours Rayot, c'était une tour démolie et les autres tours vendues à Cogedim, à Terria, je ne sais plus comment on dit, pour en faire autre chose, pour en faire du coworking, du co-living, des logements étudiants, des trucs un peu pompeux, et puis voilà quoi.
On peut dire pour finir où est-ce que ça en est, peut-être que la lutte reprendra du galon, parce que comme ils ont l'air d'avoir des problèmes de financement énormes pour aller dans le sens des projets initiaux, on se demande s'ils ne seront pas obligés de ressortir leur carte de démolition des tours comme voulait faire Haute-Seine Habitat. C'est-à-dire que ça date de Pasqua et ça fait très très longtemps cette histoire de démolition des tours. Là, on ne sait plus rien.
À l'époque, ils nous ont beaucoup baladés parce qu'on n'arrivait pas à avoir les informations de façon définitive. À chaque fois, on nous disait « c'est en cours d'étude, il n'y a rien de signé, ça a traîné ». Donc, on avait des informations complètement éparses.
Ouais. Et du coup, vous habitez au Tourayot ?
Oui.
Alors, c'est comment ce quartier ? Ou c'était comment ?
Le quartier, c'était génial, mais là, ça devient très compliqué. Déjà parce que depuis 2005 que l'office départemental a mis tous les pauvres des banlieues avoisinantes très riches, qui ne voulaient plus de leurs pauvres, c'est-à-dire plutôt Courbevoie, Neuilly, etc. Ils les ont tous mis dans les tours Rayot qui appartenaient à l'office départemental. Donc ils ont fait un ghetto de pauvres.
Pour détruire, en parlant de mixité sociale, c'est un bel argument, mais pour reloger, c'est toujours les pauvres ensemble. Hein.
À l'origine, il y avait la mixité sociale dans les tours Rayot. Mais ils ont fait en sorte qu'il n'y en ait plus. Et maintenant, le prétexte, c'est de dire qu'il faut de la mixité sociale, donc il faut déloger les pauvres.
La criminalisation des sans-logis, la stigmatisation des pauvres, la casse du logement social se sont accélérées toutes ces dernières années. Pendant que les budgets du logement social diminuent, la logique du contrôle et de la punition prend le pas. Chasse aux squatteurs, aux soi-disant fraudeurs, expulsion des parents de mineurs délinquants, les lois et projets de loi s'accumulent. Nous avons dénoncé cette politique antisociale, profitant outrageusement aux promoteurs et aux spéculateurs. Nous avons soutenu les actions des associations comme le DAL, la CNL, la plateforme Logement pour toutes et tous, qui lutte pied à pied pour imposer le droit au logement pour toutes et tous. Les locataires font face à des difficultés de plus en plus insurmontables, entre les loyers qui augmentent, les charges qui flambent et la vie de plus en plus chère, car les salaires stagnent, que le travail se précarise et que le chômage menace. Parmi eux, beaucoup de femmes, souvent mères, seules, à assumer la vie de la famille, s'oublier dans les métiers les plus invisibles, soumises à des horaires décalés, dans le nettoyage, la santé, la restauration, le commerce. Elles se débattent dans les situations insolubles, peinant à payer les loyers pour éviter l'expulsion. Des femmes de plus en plus nombreuses, y compris avec des enfants, se retrouvent aujourd'hui à la rue. Mineures étrangères, mères de famille sans emploi, des mamans qui viennent d'accoucher sont contraintes de quitter l'hôtel pour la rue, avec des bébés de 2 semaines à peine. Avec la fin de la trêve hivernale, les familles et les mamans perdent des abris improvisés, comme le hall de l'hôpital de La Fontaine, transformé en asile de nuit, qui ferme à la fin du mois. Plus que jamais, exigeons la fin des expulsions, un logement décent, stable et abordable pour toutes et tous les mal logés et sans logis.
Je fais partie du collectif Combat pour l'hébergement 93, des dames à la rue, des familles à la rue avec enfants en bas âge, qui dorment tous à l'hôpital de La Fontaine, y compris en Seine-Saint-Denis. Moi, j'ai dormi à l'hôpital de La Fontaine pendant 3 mois. J'ai appelé le 115 pour qu'il fasse quelque chose, pour qu'il m'aide à trouver un truc. Moi et mon compagnon, ils nous ont envoyés à l'hôpital de La Fontaine où j'ai dormi pendant 3 mois. J'ai été hébergée il y a quelques mois pour qu'un hôtel et tout ça. Mais en fait, les hôtels, ils étaient insalubres. Dans l'hôtel, dans le deuxième hôtel où j'ai été, il y avait du sang sur les murs, il y avait des rats, il y avait des cafards, les lits étaient cassés. Voilà. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas de cuisine, il n'y avait rien. C'était à nous de trouver quelque chose. Le 115, les hôtels qui nous donnent, ils sont insalubres. Il y a des rats, il y a des cafards, il y a de la moisissure y compris. Donc pour les enfants, c'est très dangereux. Et pour nous aussi, c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on se bat grâce au collectif Combat pour l'hébergement et tous les autres collectifs y compris. Merci à tous.
C'est pas celle qui fait baver. Demande à fable avec la comme on se mêle sur les pavés. La rage de voir nos putes entravées, de vivre en travers, la rage gravée depuis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite quand des adultes volent ton enfant. Pas imagine un mur et un poli. La rage car impossible et cette paix tant voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades de béton. Aurait-il peur de la nature? La rage car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. La rage, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouclier? La rage, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses? La rage, de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs champs OGM stérilisent la terre. La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
Vous êtes à l'écoute de l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel et vous entendez les prises de parole que nous avons pu réaliser lors de la manifestation du 29 mars 2025 pour demander un logement décent, stable, abordable pour tous et toutes.
La honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux mal logés. La honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux expulsés. La honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux mineurs isolés. La honte à ce pouvoir qui laisse crever les gens sur le trottoir. La honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux mal logés.
Là, la situation, elle est critique parce que je ne sais pas.
Pourquoi elle est critique?
Parce que les jeunes, ils sont pour ça, c'est partout.
Ouais.
Avant, ils disaient c'est parce qu'on occupait un bâtiment qui appartient à la ville et tout. Et là, on est à la rue, même sous les ponts, on est pour ça, c'est partout. C'est clair que c'est une déclaration de guerre contre tous les migrants qui sont aujourd'hui en France. Et c'est surtout la honte aussi à ces pouvoirs qui fait la guerre... aux jeunes mineurs isolés qui ont besoin surtout d'être soutenus et d'être mis à l'abri, d'être encadrés par des personnes qui sont censées les encadrer aujourd'hui, qui les poursassent partout. Si c'est la façon de l'État pour dire que nous n'avons pas notre place ici, bah on ne va pas se laisser faire. On est déjà ici et on va continuer de militer. Si ça les inquiète, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais nous, on ne va jamais s'arrêter, quoi.
Tu parlais tout à l'heure d'utopie, d'un monde à construire ensemble.
Bah oui, bah si on a envie de, qu'il y ait égalité pour toutes et tous, c'est maintenant qu'il faut se réveiller parce que visiblement, la montée de l'extrême droite, c'est clair, ils sont clairs à leurs propos. Ils n'ont pas du tout envie d'être avec des personnes immigrées
pas que des personnes immigrées d'ailleurs, même des citoyens français, il y en a certains qui pensent qu'ils sont supérieurs par rapport à d'autres. Et ça, c'est une honte. Et si on a envie que demain, nos enfants puissent vivre librement et avoir des rêves, c'est maintenant qu'il faut se réveiller et se battre, quoi.
Je te remercie.
Donc un squat historique important qui se bat contre leur expulsion.
Nous Soudanais avec Eritrea, tout bien. Il habite là-bas, ça fait 3 années.
On est 2 squats à Pantin qui sont menacés d'expulsion, donc Alzol, comme le disait Jamal, et puis la trotteuse. À la fin de la trêve hivernale, la police, elle peut venir et nous mettre dehors. Nous, ce qu'on demande déjà, c'est qu'il n'y ait pas d'expulsion cette année, parce que sur aucun des 2 bâtiments, il y a un projet à court terme. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont nous mettre dehors, mais ensuite, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le bâtiment, il va encore rester vide. Et donc du coup, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait pas d'expulsion, et que si jamais il doit y avoir une expulsion, et ben, il y ait des solutions de relogement pour tous les habitants. Il y a 60 d'habitants à Zol, il y a 60 d'habitants à la Trotteuse, et donc voilà, il faut des solutions d'hébergement individualisées pour tout le monde.
Voilà, donc avec la loi Kasbarian qui criminalise les squatteurs et qui autorise l'expulsion administrative, le combat continue. Il y en a qui sont courageux et courageuses et qui continuent la lutte.
Il y a également une banderole dans la manifestation qui dit la vie chère, les attentes pour les papiers, les maisons murées, enfin la loi raciste, la galère, j'en peux plus.
Nous, on vient d'un squat qui s'appelle la Kunda. Donc c'est un squat qui est à Vitry-sur-Seine et qui est ouvert depuis 5 ans, qui a été ouvert au moment du premier confinement. Et là, on est menacé d'expulsion avec la fin de la trêve hivernale. On arrive au bout de toutes les procédures juridiques pour demander des délais et tout ça. Et du coup, on essaie de mobiliser sur la question du mal logement et du squat en général, parce qu'il n'y a plus aucun squat qui arrive à ouvrir depuis la loi Kasbarian, qui est passée l'été dernier, enfin il y a 1 an et demi à peu près. Et du coup, là, comme c'est un des derniers gros squats d'habitation et d'organisation, on essaie de mobiliser les gens pour sa défense, pour visibiliser ce qui se passe, que ce soit pour la question de logement ou pour les questions de papier, parce que ça mélange tout, en fait.
Pourquoi c'est important qu'il y ait des squats dans une ville?
Par exemple, si je prends l'exemple de la Kunda, en fait, c'est super important à Vitry comme espace. À la fois, les gens, ils peuvent venir faire des cours de sport gratuits, il y a des distributions de fruits et légumes gratuites une fois par semaine. C'est un lieu où on peut être hébergé pendant 2 semaines, renouvelable une fois. Enfin, il y a énormément de gens qui sont passés par là. On peut faire des cantines de soutien. C'est un lieu où on peut se poser, se retrouver. Il y a une bibliothèque autogérée. En fait, il y a plein d'espaces qui sont ouverts et disponibles pour les gens de la ville. Et en fait, à part ce lieu, il n'y a rien à Vitry qui pourrait le remplacer, quoi.
Alors, il faut dire quand même que sur les villes, il n'y a plus d'espace collectif pour se réunir, s'organiser, réfléchir, puis même faire la fête, hein, tout simplement.
Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on organise un festival pour parler de la fin de la trêve hivernale et justement de tout ce qui se passe en termes de logement. C'est du 4 au 6 avril et ce sera à la maison. Il y aura aussi un carnaval dans la rue pour aller dans l'espace public et visibiliser aussi dans la rue ce qui se passe. On refuse l'expulsion et que non seulement on refuse, mais en plus on demande au pouvoir public de se positionner pour concrètement faire des choses pour les mal logés.
Les mal logés, il y en a un paquet. Hein. Et notamment les sans-papiers, ça on l'a vu, pour des jeunes gens. Le RSA, il vient très tard et puis il est tellement faible qu'on ne peut même pas se payer un loyer. Donc il faut bien trouver un logement. Et du logement, il y en a, parce qu'il y a plein d'espaces vides.
Oui, là c'est ce que disait Fanny Dudal tout à l'heure, il y a 4 millions de logements vides. Et des centaines de milliers de personnes à la rue ou mal logées, parce qu'en fait c'est même pas que les personnes qui vivent à la rue et qui sont visibles, c'est aussi tous les gens qui sont menacés d'expulsion parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer, c'est les gens qui vivent dans des conditions super insalubres, pour lesquels personne ne fait rien, qui se font arnaquer par les bailleurs, enfin c'est vraiment une situation générale, quoi.
La parole à Élie, donc de l'Union syndicale solidaire.
Pour l'Union syndicale solidaire,
Le logement devrait être la première des priorités de ce gouvernement. Première préoccupation de la population devant la santé et l'alimentation, sans logement, il n'y a pas de vie sociale possible. Quand on est salarié, comment travailler quand le quotidien hors du travail, c'est vivre et dormir dans sa voiture pour celles et ceux qui en ont une, ou pire, la rue. La France, c'est plus de 330 000 sans logis, des millions de très mal logés dans des passoires thermiques, des logements trop exigus et délabrés. Ce constat, nous faisons le même tous les ans. Ces réalités, c'est tous les jours qu'on les côtoie au coin de la rue. Et la situation ne cesse d'empirer. Et qu'est-ce qui est fait ? Rien ou presque. Enfin si, pour la rente, tout se passe bien ou presque. Grâce à Guillaume Kasbarian et Aurore Berger, les expulsions, comme on vient de le dire, on vient de le voir, ont augmenté de 23% en 2023, sans que beaucoup de solutions de relogement aient été trouvées. Encore pire, avec Retailleau, qui expulse quelques centaines de jeunes et mineurs non accompagnés de la gaieté lyrique, les condamnant à l'errance dans les rues de Paris. Retailleau, dont le projet de loi narcotrafique comprend un article qui permettra, en cas d'adoption, d'expulser des locataires des logements sociaux si des troubles sont constatés aux abords, entre guillemets, du logement. Mais quels troubles ? Des jeux d'enfants ? Et quels abords ? Plusieurs mètres ou quelques centaines de mètres ? Et que dire du durcissement de la circulaire Valls par le même Retailleau, prétexte à expulser celles et ceux envers qui une obligation de quitter le territoire aura été délivrée. Enfin, ce gouvernement qui se prépare à serrer encore plus la vis aux allocataires du RSA en suspendant leur maigre allocation pour ne pas avoir répondu aux injonctions et intrusions de France Travail, et qui seront encore plus précarisés et qui pour eux pourront être expulsés de leur logement. À l'abri de tous les regards, y compris pendant la trêve hivernale, en s'expulsant eux-mêmes par peur des représailles financières et des amendes qui pourraient être infligées. Tout cela, c'est la même logique. L'argent doit circuler pour alimenter toujours plus la rente et le capital des riches et au passage l'État. On relègue les quartiers populaires aux périphéries, on détruit les logements sociaux actuels quand on ne les réhabilite pas pour les classes sociales aisées. Ainsi, avec la nouvelle loi Kasbarian, l'adorateur de Musk, qui projette de ne plus garantir un logement social pérenne et que les locataires les plus aisés soient contraints de quitter les lieux, sachant qu'on parle là de classes populaires aux revenus déjà fragiles et de régler un surloyer dès le premier euro dépassant le plafond de ressources. Bien que rejetée par la commission des lois, cette loi sera quand même examinée par l'Assemblée lundi prochain. Pour éviter de construire de nouveaux logements sociaux, Kasbarian crée donc le taux de rotation forcé. Mais ce sera de toute façon largement insuffisant pour répondre aux besoins. Il faut au minimum construire 200 à 250 000 nouveaux logements sociaux par an. Comme on en est loin, le résultat, il faut 10 ans pour obtenir un logement social en moyenne sur l'Île-de-France. 2,6 millions de ménages français attendaient en 2024 un logement social. Le logement n'est pas une affaire individuelle ou personnelle. La responsabilité du résultat actuel est à la charge des politiques capitalistes, faites pour favoriser le capital et isoler toujours plus les locataires et habitants précaires qui ne peuvent pas ou ne savent pas se défendre. Face à la fragmentation et réflexes individuels, la solution est collective. Lutter contre ces politiques nécessite de construire le rapport de force. Stop au logement cher, baisse des loyers, forte revalorisation des salaires et des minima sociaux, suppression de la RLS, construction de logements sociaux en masse, arrêt de la gentrification des quartiers populaires et de rénovation des habitats sociaux. Un logement stable, décent, abordable pour toutes et tous, pour l'Union syndicale solidaire, c'est maintenant et c'est indispensable. Un toit, c'est un droit. Un toit, c'est la loi.
Après l'Union syndicale solidaire, le COPAF, c'est les foyers, les anciens foyers de travailleurs migrants. Et donc aujourd'hui qui sont les résidences sociales. Donc Sissoko Mandi va raconter le combat des résidents des foyers de travailleurs migrants depuis si longtemps en lutte contre leurs marchands de sommeil.
Bonjour à tout le monde. Je suis à Foyer Boulogne-Billancourt depuis 37 ans. Les problèmes de nous aujourd'hui, ils veulent casser le foyer pour faire une nouvelle résidence. Mais les nouvelles résidences, bon. Il y avait 328 résidents, mais quand ils cassent les bâtiments, il y avait après 200 personnes, 128 résidents, ils n'auront pas de logement. Et puis, ce qui nous fait mal aujourd'hui, les nouveaux règlements, l'intérieur qui nous fait mal.
Parce que quand il y a des chambres là-bas, tu ne peux pas avoir de logement. Il faut que tu signes le nouvel règlement à l'entrée. Là, ça marque que tu ne dois même pas berger même ton fils. Avec l'explosion massive à Douma aujourd'hui, ça nous fait très très mal. Parce qu'avec tu trouves une personne à ton côté, tu vas perdre ton logement. Voilà, nous aussi, on a, surtout nous, Boulogne, il ne fait rien de tout. Depuis deux semaines, on n'a pas de l'eau chaude. Avec les frappes massives comme ça, les bâtiments viennent, il ne fait pas de travaux. L'année passée, on a plus de 11 euros de augmentation. Et cette année aussi, il y aura des montations, je ne sais pas combien.
Oui, bonjour. Moi, je vais prendre la parole aussi aux côtés des foyers. Nous, on est le COPAF, Collectif pour l'avenir des foyers, une association qui soutient les luttes des résidents de foyers. Donc voilà, il y a une très bonne prise de parole de notre camarade de Boulogne. Le foyer de Boulogne, c'est un très grand foyer qui est là depuis très longtemps, à l'époque où il y avait l'usine Renault à Boulogne-Billancourt. Et en 2016, ils ont mené une lutte exceptionnelle. Ils ont fait la grève pendant 7 mois parce que voilà, il y avait l'état de leur foyer était complètement dégradé. Et ils ont fermé leur cantine solidaire. Il y avait à peu près 400 grévistes. Je ne pense pas qu'on ait vu ça récemment en France dans la lutte. Donc voilà, c'était une lutte exemplaire. Aujourd'hui, ils sont encore inquiétés à cause de cette grève-là. Il y en a plus d'une centaine qui sont allés au tribunal à cause des dettes accumulées lors de cette grève. On leur a promis des travaux. On leur a promis beaucoup de choses en échange qu'ils reprennent le paiement des loyers. Ils ont repris le paiement des loyers. Au final, l'état du foyer est toujours complètement dégradé. C'est insalubre. Et les loyers, ils augmentent encore chaque année. C'est catastrophique. Franchement, moi je ne suis pas concerné. Je ne suis pas de foyer. Mais la première fois que je suis allé dans les foyers travers migrants, dans les chambres, ça m'a choqué. De voir que des gens qui sont dans nos quartiers comme ça, qui vivent dans des conditions pareilles, c'est inacceptable. On doit refuser. Aujourd'hui, dans les rénovations, voilà, ils nous disent, voilà, on vous fait des foyers tout beaux, des résidences toutes neuves, tout propres. Ce qu'ils disent pas, c'est que aussi ils détruisent tous les espaces collectifs des foyers, disparaissent petit à petit, parce qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas compris. Quand tu es dans la précarité, c'est pas les assistantes sociales qui te permettent de t'en sortir, c'est la solidarité. C'est ce qui se passe dans les foyers, on le voit. Ce qui te sauve, c'est la solidarité. Et comme on l'a dit, aujourd'hui, dans les foyers, les gens qui hébergent leurs fils, leurs frères, leurs cousins, ils se font expulser juste pour ça, juste parce qu'ils hébergent un membre de leur famille, ils refusent de les laisser dans la rue. Nous, on va au tribunal, chaque semaine, on les voit se faire expulser, on n'arrive jamais à gagner, peu importe les avocats. La seule expulsion qu'on a réussi à empêcher, c'est quand tout le foyer est descendu, on a bloqué, on a occupé le hall pendant une, deux semaines, et c'est comme ça qu'on a réussi à bloquer l'expulsion. Il n'y a que ça qui marche, il n'y a que la solidarité. Donc voilà, on continue, on lâche rien, égalité des droits entre résidents de foyer et locataires. Merci.
On peut dire qu'il y a, bon, pas loin de 2000 personnes ont manifesté aujourd'hui à Paris. Et si on additionne ceux qui ont manifesté en région, dans une dizaine de villes, bon, ben, on va dire plusieurs milliers de personnes ont manifesté. Voilà. Et malgré un contexte qui est difficile, qui est très répressif, beaucoup de gens ont peur aujourd'hui hein, de manifester. C'est vrai qu'on n'a pas été beaucoup relayé pour la préparation de cette manifestation dans les médias. On sent qu'il y a un contrôle aujourd'hui de plus en plus fort des médias. Bolloré, Arnault et compagnie, les médias des milliardaires. Hein, plus l'État, donc Bolloré, Arnault, Macron. Hein. C'est comme ça aujourd'hui que ça fonctionne avec quelques médias alternatifs, tout ça heureusement qui sont là et qui en parlent. Mais les médias grand public, ils ont oublié cette année de parler du logement cher alors que la crise n'a jamais été aussi grave depuis 50 ans ou 60 ans, voire 70 ans, pour monter aux années 50, hein, pour voir un drame aussi important, une situation aussi grave, pour des raisons différentes. Parce que dans les années 50, on n'avait pas assez de logements tout court. Tous les logements étaient réquisitionnés. Ils appliquaient la loi de réquisition. Et il y avait des expulsions, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un pays qui n'a jamais compté autant de logements, mais autant de sans-abri, etc., etc. Beaucoup de logements vacants et beaucoup d'argent. Jamais il y a eu autant d'argent. C'est le règne des inégalités, c'est le règne des injustices aujourd'hui dans ce pays. Alors, maintenant, comment faire pour que la lutte s'étende pour le logement, pour ce droit essentiel, s'étende, se développe, pour que les locataires, les mal logés
et les sans-abri, unis main dans la main, manifestent tous ensemble. Comment faire ? Il n'y a que comme ça qu'on pourra arriver à les plier en face, à faire monter les revendications pour le logement, pour le droit au logement, pour un loyer abordable, pour un logement stable, pour un logement décent. Comment on fait ? Mais il va falloir se mobiliser dans les quartiers, dans les immeubles. C'est ce qu'ils ont fait en Espagne, à Madrid, à Barcelone. Ils ont créé des comités d'habitants, de locataires, partout, dans les quartiers. C'est comme ça qu'ils ont mobilisé. Ils ont fait du porte-à-porte. Les gens sont organisés, ils sont descendus dans la rue. Donc il faudrait peut-être maintenant qu'on s'organise tous ensemble, solidaires, pour faire ce travail dans les quartiers. Mobiliser les jeunes aussi, alors que le logement, c'est un problème collectif.
Bon, je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là de revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Vous écoutez l'actualité des luttes
comme tous les jours du lundi au vendredi
de 12h30 à 13h30
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
Et l'actualité des luttes, c'est aussi en rediffusion du lundi au vendredi de 6h30 à 7h30.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.